VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza pour vous présenter ce journal. À la une, la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique que le président américain Donald Trump a annoncé hier matin dans une allocution télévisée à la Nation. Il a déclaré qu'une opération des forces spéciales américaines a ciblé avec succès et éliminé violemment al-Baghdadi dans le nord-ouest de la Syrie. La nuit dernière, a-t-il ajouté, les États-Unis ont traduit en justice le leader terroriste numéro un du monde. Le président américain a expliqué que le leader djihadiste est mort après s'être fait exploser dans un tunnel, tuant en même temps trois de ses enfants. Le tunnel s'est effondré suite à cette explosion. Aucun personnel américain n'a été perdu dans cette opération, mais un grand nombre des combattants d'Al-Baghdadi ont été tués et d'autres capturés. Selon M. Trump, le leader du groupe État islamique qui se cachait dans le tunnel a tenté de fuir, gémissant, pleurant et criant. Il n'est pas mort comme un héros, il est mort comme un lâche, il est mort comme un chien, a-t-il dit le président Trump. Et les tests ADN réalisés sur place ont confirmé en 15 minutes qu'il s'agissait bien d'Abou Bakr al-Baghdadi, a souligné le chef de l'exécutif américain. Les réactions ne se sont pas fait attendre dans le monde après la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a fait état d'un coup dur porté contre Daesh pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Je cite, « La mort de Baghdadi est un moment important dans le combat contre la terreur. » Son homologue israélien Benjamin Netanyahou a félicité le président Trump pour cet accomplissement, ajoutant que cette réussite est une étape importante. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé de tournant dans la guerre contre le terrorisme. L'Iran a affirmé que l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi ne signifie pas la fin du combat contre l'organisation djihadiste. Moscou a déclaré ne pas avoir d'informations fiables sur une énième mort du chef du groupe État islamique, faisant état de détails contradictoires. Mazloum Abdi, commandant de ceux qui se font appeler Forces démocratiques syriennes, partenaire de Washington dans la lutte contre l'État islamique, dit s'attendre à une vengeance des cellules dormantes du groupe État islamique. Les forces kurdes en Syrie ont annoncé qu'elles vont s'éloigner de toute la frontière avec la Turquie en vertu d'un accord russo-turc pour mettre un terme à l'offensive d'Ankara dans le nord syrien.
Abou Bakr al-Baghdadi est considéré comme responsable de multiples attentats dans plusieurs pays. Auparavant, à plusieurs reprises, Baghdadi avait été annoncé mort. A-t-il vraiment été tué cette fois-ci? C'est la question que Yacouba Ouedraogo a posée à Romain Caillé, chercheur et consultant sur les questions islamistes.
Auparavant, ce ne sont pas les Américains qui annonçaient sa mort, c'était la Russie ou certains pays arabes qui sont connus pour avoir peu de rigueur dans les informations et mélanger propagande et parfois de fausses informations pour déstabiliser l'adversaire. Dans le cas des États-Unis, c'est totalement différent. Là où on pouvait avoir un doute, c'est qu'auparavant, c'est que des sources anonymes qui confirmaient ça à la presse. Mais là, il y a Trump qui a quand même engagé la crédibilité, la responsabilité des États-Unis. Ça serait couvrir l'institution américaine de ridicule, et ça, je pense qu'il ne le ferait pas.
Les États-Unis ont annoncé avoir vaincu le groupe État islamique en mars dernier. Est-ce que cette fois-ci, on va dire, l'élimination de Baghdadi signifierait la fin du groupe État islamique?
Non, la fin du groupe État islamique en tant que groupe terroriste, certainement pas. Il va se reformer. Maintenant, l'État islamique en tant que puissance militaire, comme il a pu l'être à l'été 2014, ça paraît peu probable qu'il se reforme et qu'il revienne à ce niveau, à moins d'une déstabilisation majeur de la région, comme l'a été la révolution syrienne dans la lignée du printemps arabe.
On sait que les États-Unis ont pratiquement lâché entre griffes les Kurdes qui ont contribué à la lutte contre le groupe État islamique ces derniers temps. Alors, les Kurdes disent craindre des représailles de la part des cellules dormantes du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut s'attendre véritablement à des représailles?
Quand vous dites les Kurdes, vous parlez PG, PKK. Oui, mais pas spécialement plus que les autres acteurs. L'État islamique, c'est en groupe avec tous les autres acteurs. D'ailleurs, Trump n'a pas spécialement mis en avant les Kurdes. de remercier la Russie, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Tous étaient en guerre contre l'État islamique et l'État islamique était en guerre contre tous. Donc effectivement, ils mèneront des opérations contre les PKK qui sont fragilisés après le retrait américain, mais pas spécialement contre eux plus que d'autres.
Qu'est-ce que l'élimination d'Abu Bakr al-Baghdadi peut apporter dans la lutte contre le terrorisme en général dans le monde?
Au niveau de la lutte au jour le jour, d'un point de vue sécuritaire, ça change strictement rien. On prend l'exemple de la France. Certes, le principal attentat le plus meurtrier, il a été organisé, préparé depuis le territoire de l'État islamique, mais le second attentat le plus meurtrier, celui de Nice, c'est le cas d'un sympathisant de l'État islamique qui s'était radicalisé et qui avait répondu aux appels à commettre des attentats. Donc, là où ça va changer quelque chose, c'est que l'État islamique va peut-être avoir des difficultés pour faire accepter le successeur d'Al-Baghdadi auprès du public djihadiste. Ils ne sont pas dans une situation de force, donc il est peut-être probable qu'ils soient plus ou moins anonymes. Ce ne serait pas acceptable pour réclamer l'allégeance de tous au calife. Donc c'est ça l'enjeu, c'est au fur et à mesure que les chefs djihadistes sont tués, il faut que le successeur s'inscrive dans un narratif qui ait une crédibilité auprès du public djihadiste, auquel cas ils perdent le soutien qu'ils ont de ces communautés.
Romain Caillé, chercheur et consultant sur les questions islamistes, joint à Paris en Guinée. Des centaines de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et la Gambie, ont été interpellés ces derniers jours. Conakry dénonce les infiltrations de corps étrangers alors que le pays connaît une vague de manifestations contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Mais cette affaire pourrait être liée aux pratiques controversées d'une société de vente directe, la multinationale CNET, basée à Hong Kong. Cette société, qui est bien implantée en Afrique, aurait attiré en Guinée des jeunes de plusieurs pays et leur aurait vendu des produits divers à charge pour eux de les revendre à leur entourage. En RDC, l'opposant Moïse Katumbi a pu finalement se rendre à Goma après deux tentatives manquées. C'est samedi qu'il est arrivé dans la capitale du Nord Kivu pour y entamer une tournée dans l'est du pays. Lors d'un meeting à Goma, il a annoncé la création de son parti politique et promis de rester dans l'opposition. Les précisions de Charlie Kasereka.
Des milliers de personnes sont venues l'attendre samedi à l'aéroport de Goma. Il a conduit la foule jusqu'au stade Afia, où il a tenu un grand meeting s'adressant aux partisans en ces termes.
Nous avons manqué trois rendez-vous avec vous. Je suis étonné de voir beaucoup de gens venir m'accueillir. Et je sais que c'est vous, le peuple, ma protection. Je ne suis pas un politicien opportuniste. Je suis maintenant dans l'opposition. Chaque chose a son temps.
Moïse Katumbi a clamé sa détermination de rester dans l'opposition et a évoqué la création prochaine de son parti politique.
Nous sommes dans l'opposition exigeante. Nous sommes donc les arbitres et nous allons dénoncer tout ce qui ne marche pas bien ici au pays.
Un message bien capté par les partisans de celui qui désormais se reconnaît comme opposant. Denise Cagnère et Jean Bahati, tous des partisans de Katumbi.
Et nous allons continuer à les soutenir. Comme il dit qu'il va rester dans l'opposition, nous allons continuer à les soutenir. Et nous allons continuer à mettre des pressions pour des choses qui ne va pas.
Il est venu ici à Goma pour nous montrer sa vision de former le parti politique. Et un parti politique qui n'est pas des opportunistes, mais qui ont la vision de ces pays. Nous allons toujours les soutenir.
À Goma, il a eu un week-end chargé. Après la messe, dimanche matin, Moïse Katumbi est allé s'incliner et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'activiste Likulula, décédé le 10 juin de l'année passée.
Dans tout le pays, le combat doit continuer pour libérer le peuple congolais. Ce jeune est décédé, c'est parce qu'il aimait son pays. Et il y a des gens qui ne voulaient pas le changement. Donc nous devons nous tous être engagés, dénoncer tout le mal. Aussi longtemps que nous sommes vivants, nous devons réclamer la vraie justice.
Dès l'après-midi jusqu'à trop tard dans la nuit, il a échangé avec les membres de la société civile de Goma. Salandi, l'ancien gouverneur du Katanga, se rend à Beni et Butembo. Après le Nord Kivu, il se rendra dans la province voisine du Sud Kivu, à Bukavu. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Merci Thierry Kasereka. En Algérie, les juges et les procureurs ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer l'indépendance de la justice au moment où la commission électorale a annoncé que 22 candidats sont en lice pour la présidentielle. En Irak, les écoliers et les étudiants ont rejoint hier les manifestations accentuant ainsi la pression sur le gouvernement. Il fait face depuis près d'un mois à un mouvement de contestation inédit à Bagdad. et dans le sud chiite. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une agréable journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.